Cette méditation aura un chemin dans vos cœurs, non pas par ma parole, mais par la parole du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles chaque dimanche pour méditer ta parole, pour partager, pour chanter, pour prier ensemble, Seigneur. Nous te prions pour que tu parles à chacun par ce qui sortira de ta bouche, par ta parole, pour nous éclairer, pour nous conduire. Inlassablement, nous répétons bien des choses et inlassablement, tu viens nous parler. Nous t'en sommes reconnaissants. En ton nom, amen. Si je n'avais pas de titre pour cette méditation, j'en ai un, rassurez-vous, mais j'aurais pris le message que Steve Orange, pasteur à Woluwe, nous a fait parvenir ce matin pour nous rappeler le camp de jeûnes qui aura lieu à Limoges les 1 au 3 mai. Et le thème du camp, c'est « Rien de plus, parce que Jésus suffit ». Là aussi, pour les jeunes, on renouvelle les choses, on va encore enseigner et encore redire les choses, et j'imagine que ce sera dynamique, et ce sera encore peut-être pour les jeunes qui sont dans nos églises, un certain nombre de répétitions, mais pour les interpeller dans un monde où finalement beaucoup de choses les éloignent de ce que l'on enseigne dans nos églises. Quand on m'a demandé de prêcher ce matin, j'ai pensé tout de suite à mon identité en Christ. Et Patrick m'a renvoyé un message en disant « Oui, il y a dans tel... » Il ne m'a pas donné les passages, mais il m'a dit « Oui, l'apôtre Paul évoque l'identité en Christ dans de nombreux passages, et c'est vrai qu'ils sont abondants. » J'ai pris, non pas la prédication tout à fait, parce qu'il y a très peu de choses, mais vous n'ignorez pas que nous regardons dans nos réunions de maison, nous étudions, chaque dimanche compte depuis un certain temps, depuis un certain nombre de mois, et ça ne sera pas une surprise pour ceux qui suivent nos réunions de maison. Et je m'étais attardé sur le 31e dimanche qui nous dit ceci. Le culte collectif d'adoration a pour vocation de vous rappeler votre identité en Christ afin que vous ne perdiez pas votre temps à chercher votre identité ailleurs. Bien. Il cite trois exemples, et ce ne sera pas redondant pour la plupart d'entre vous, puisque nous ne sommes pas tellement nombreux à suivre les réunions de maison, et l'auteur cite trois exemples, et je mettrai deux exemples liés à ces chocs de la vie. Un homme jeune de bonne famille, dont la carrière est prospère, les choses vont plutôt bien, c'est mon résumé, dans sa vie et soudain, il perd son travail. Ce en quoi il avait placé beaucoup d'espoir et ce qui était devenu une réalité en soi agréable, s'effondre. J'ai rencontré il y a quelques jours un homme qui a fréquenté plus jeune notre groupe de jeunes à l'église. Et je lui ai demandé ce qu'il en était de sa situation, parce qu'il a été licencié lors de la fermeture d'Audi Forêt. Beaucoup n'ignorent pas cette fermeture d'une usine emblématique de la région bruxelloise. C'est loin d'être facile, me dit-il. Et en amont, il y a d'autres choses encore qui le font souffrir, comme un divorce, dont je connais les circonstances. Mais il garde la foi. Un adolescent adepte de la pratique du football se retrouve étendu sur le terrain avec une jambe contorsionnée. Arrêté net dans sa pratique, ce qui lui procurait du plaisir, il se trouve là, triste et amer, alors que ça donnait un certain sens à sa vie d'adolescent. Obsédé par le sport depuis tout jeune, il était un espoir pour ceux qui l'entraînaient. Et son identité était dans le sport, et un grand trouble l'a envahi. Un autre exemple, celui d'une jeune fille qui rêve d'un prince charmant, oui, ça existe encore, de mariage, d'enfants, et elle voudrait que ça devienne une réalité dans sa vie, et c'est devenu une réalité. Quelle joie, quel accomplissement, et puis le jeune mari meurt dans un accident et tout s'écroule. Les espoirs d'une vie disparaissent de manière inopinée, et qui suis-je ? Où va ma vie ? Mon grand-père paternel, je ne l'ai pas connu, parce qu'il a été renversé par une voiture sur le trottoir au bras de ma grand-mère. Il en est mort. C'était peu de temps avant le mariage de mes parents. Ma grand-mère a gardé la foi. Des événements pénibles qui bouleversent, choquent, mais qui interpellent, et les choses arrivent de manière inopinée parfois, seul Dieu connaît pourquoi, et je ne sais pas si ce jeune chef caporal, je ne sais plus quel est son grade, mais français, qui a été tué par, vraisemblablement par deux terroristes du Hezbollah qui ont visé la finule, qui elle-même ne peut pas tirer, et voilà cet homme de 40 ans avec deux enfants qui devait rentrer bientôt en France pour une période de repos. Il a fait l'Afghanistan, il a été sur d'autres théâtres d'opération. Et le voilà tué, inopinément. Des choses arrivent dans la vie des hommes qui nous entourent et peut-être aussi dans la vie des chrétiens. Rien de mal, en fait, de se réjouir d'une belle carrière, ni d'aimer faire du sport, ni d'aimer la vie, ni d'aimer le mariage. Rien de mal à poursuivre un projet de vie. Mais si nous ne plaçons pas les choses à la bonne place, à savoir dans la juste relation pour laquelle Dieu nous a créés, nous nous perdrons. Dans la tristesse parfois, dans le chagrin aussi, dans le désespoir peut-être, parce que la vie n'est pas toujours sans écueil. En réalité, la croix nous montre l'importance de ces deux dimensions dans notre vie, et cela sera tellement facile de vous en souvenir, puisque chaque dimanche, vous voyez cette croix dans mon dos. La dimension verticale est la plus importante. La latérale l'est aussi, mais elle est plus petite. Elle vient en second, en importance. C'est plutôt simple, dit comme ça. Mon identité première est verticale. Ma vie prend du sens avec Dieu. Et conditionne ma marche ici-bas. Ensuite viennent les autres choses qui font ma vie et qui me donnent aussi du sens. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai perdu une fonction, oh, un petit rôle, même si on ne s'occupait pas de l'épicier du coin, dans la machine fiscale et judiciaire. J'ai perdu brutalement des contacts, même si certains sont restés, parce qu'avec la Covid qui est venue 5 mois après, il y a eu 2 années de précautions et de ruptures. Et certains se souviendront que ma mère est décédée à la fin de ces 2 années si particulières. C'est assez simple de dire ces choses quand on ne vit pas de drame ou des difficultés, quand on a peut-être inversé les bâtons de la croix, on l'a incliné pour que le latéral prenne le pas sur le vertical. D'abord un grand horizontal et puis un petit vertical. C'est assez facile de théoriser ces principes, mais quand ça chauffe, c'est là que les choses se corsent. Paul Tripp, dans le livre que je viens d'évoquer, écrit ceci. Très tôt, sans nous en rendre compte, nous commençons à nous attribuer une ou plusieurs identités. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Mais nous nous reposons tous d'une manière ou d'une autre sur ces différentes identités qui font que nous sommes identifiés dans la société. Les questions viennent tout naturellement. Que fais-tu ? Qu'est-ce que tu étudies ? Où habites-tu ? C'est un peu bateau, mais c'est généralement comme ça qu'on apprend à s'identifier dans la société. C'est aussi pourquoi on tend généralement à s'élever, à se distinguer. Regardez seulement autour de vous et écoutez. Même dans l'identité en Christ, cela se retrouve aussi. Et pas seulement parmi les chefs religieux auxquels Jésus s'adresse dans Matthieu 23, les versets 8 à 12, et je vous lis, « Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, et c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef. » C'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Et devinez quelle est la situation la plus confortable. Pour moi, c'est la deuxième. Parce que la première comporte un abaissement. Et la deuxième comporte une élévation que Dieu permet. Ne prenons pas à la légère ces remarques identitaires exprimées par Jésus lui-même, en particulier cette dernière affirmation, « Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. » Parole de Jésus. Oh, on verra bien, cela ne se passera pas ou ce sera plus tard, mais pour aujourd'hui, quelle importance. Continuons sur notre voie. Mais dans quel cadre croyons-nous évoluer ? Qui est l'autorité pour le croyant ? L'opinion publique ? Fut-elle celle de l'Église ? C'est le Maître qui a parlé et il ne parle jamais en vain. Soyons-en convaincus. Il y a toujours, avec Dieu, un retour de manivelle. Dès la Genèse, c'est Dieu qui devait être au cœur de la vie de nos premiers parents. Nous savons ce qu'il en est advenu. Le centre des préoccupations de l'homme et de son identité s'est trouvé être dans les éléments de la création plutôt que dans le Créateur. Ce n'est pas simplement du réalisme devant les exigences de la vie. Bien sûr qu'il faut s'occuper des choses de la vie. Bien sûr. Et je faisais remarquer récemment à l'un de nos jeunes que si nous analysons ce que nous proposent bien des programmes télé, entre parenthèses, même si les jeunes regardent plus TikTok ou Instagram aujourd'hui, il y a ici et là des choses intéressantes, mais la plupart de ce qu'on nous propose en télévision touche au mal, au crime, aux jalousies, aux infidélités, à l'immoralité, etc., etc. Je ne connais pas TikTok, mais il est clair, enfin si, d'où y dire, mais il est clair qu'il y a des dangers évidents comme des incitations au suicide, par exemple. Et ce matin, un titre du journal Le Soir nous parle de, et j'ai vu ça en télévision, quelques éléments de cela, muscle, looks maxing, argent facile, anti-école, ce que les réseaux font aux jeunes garçons. Changer leur apparence pour devenir plus masculin, pour devenir plus impressionnant. Et puis toutes les autres choses qui ne sont pas intéressantes pour nous. Ce principe de la croix nous aide à comprendre de manière spirituelle cette relation au véritable sens de l'identité qui est censée être la nôtre. Jésus est venu pour restaurer notre union avec Dieu. En cela, le sens est le but de notre vie. Un passage tellement simple, mais impressionnant de vérité, là où l'eunuque éthiopien, lisant le passage d'Ésaïe qui parle de l'humiliation de celui qui a été conduit comme une brebis à l'abattoir, il aimerait avoir des explications. Et puis, il n'était sans doute pas ignorant de ce qui concernait Jésus, puisqu'il veut en savoir plus. Et Philippe, qui arrive d'une manière aussi inopinée, lui donne des explications. Et en Actes 8, 37 à 40, nous lisons, Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il évoque le baptême après avoir cru. Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Et en lisant ce texte, je suis resté là-dessus. Il poursuivit sa route tout joyeux. À voir certaines de nos têtes, la mienne aussi peut-être parfois, on pourrait se demander, est-ce que je poursuis ma route tout joyeux? Est-ce que j'ai encore cette simplicité de la rencontre avec Jésus? Une réelle conversion, une conversion qui réjouit le cœur, un homme avec une identité, puisqu'il est question d'identité, une identité forte, un dignitaire au royaume de la reine Candace, et maintenant un homme avec une nouvelle identité de croyant. Il montre qu'il est devenu par la foi, qui il est devenu par la foi au Fils de Dieu. J'ose croire que c'est là aussi votre véritable vécu en ce qui concerne l'œuvre de Christ dans votre vie. Il y a de ces affirmations qui sont presque faciles lorsque tout roule dans nos vies ou lorsque notre identité est porteuse parfois d'une gloire bien éphémère. Je vous livre ce verset de 2 Corinthiens 4, 18 parce que nous regardons non point aux choses visibles auxquelles nous sommes parfois tellement attachés, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quel contraste entre ce qui habituellement nous préoccupe d'abord, à savoir ce qui est visible, ce que je peux toucher, ce que je peux devenir. L'Épître aux Hébreux renferme une de ces pépites comme seule la Bible en a le secret. Au chapitre 11, que nous évoquons régulièrement quant à la foi, Au chapitre 11, qui nous est si familier sur la question de la foi, je relèverai au verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Une question d'identité, soit dit au passage. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir, et retenez bien ces termes, momentanément la jouissance du péché. Ça ne m'avait jamais autant frappé auparavant, mais à relire ce verset, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Prendre l'identité de l'Égypte qui lui donnait tant d'avantages et de sécurité, de gloire peut-être à venir, gloire de la terre. Il considérait l'humiliation attachée en vision future au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Est-ce que c'est bien notre vision ? Est-ce que c'est bien notre cas ? De voir au-delà de ce qui fait un peu notre orgueil d'aujourd'hui. Moïse a dépassé les choses passagères pour considérer les choses éternelles. Et dans le même chapitre 11, au verset 3, nous lisons « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Et au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Nous ne sommes pas à l'affût de recevoir des choses en récompense, mais Dieu lui-même les promet à ceux qui l'écoutent et qui marchent dans ses voies. Quel réconfort qui nous demande un élan de foi que nous pouvons toucher concrètement chaque jour. C'est du pratique, c'est du quotidien, à chaque étape de notre vie, mais qui dépend d'une chose, la foi en celui qui a payé le prix de notre péché, celui qui s'est identifié à nous et en qui nous nous identifions, si c'est bien le cas. En effet, Romains 8, 16 déclare « L'Esprit, et c'est un verset que nous connaissons sans doute par cœur, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il ne s'agit pas là d'une auto-conviction. Il s'agit d'une œuvre spirituelle de Dieu dans le croyant. Et ça, chaque croyant le sait. Ou il sait aussi, celui qui ne croit pas, sait très bien qu'il n'a pas ce témoignage en lui. Ce verset souligne la conviction intérieure donnée par le Saint-Esprit, confirmant notre adoption divine et notre relation filiale avec Dieu, affirmant comme une assurance spirituelle de notre identité en Christ. Le Saint-Esprit confirme directement à la conscience du croyant son statut d'enfant de Dieu. Attention de ne pas nous abuser nous-mêmes par des signes extérieurs qui donneraient l'impression de ce que nous ne sommes pas en Christ. Moïse a considéré son identité principale, comme nous l'avons lu, en rejetant ce qui était facile, la jouissance du péché, pour mettre en avant sa condition de serviteur du Dieu vivant. Le péché ne prend pas toujours des formes grossières, n'est-ce pas ? Et puis vient ce verset 27, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait ce qui est invisible. Je ne sais pas si nous pouvons nous identifier à l'enjeu que représentait la sortie d'Égypte pour le peuple de Dieu. Mais si cette foi dans le Dieu invisible qui s'était manifesté, c'est pour nous aussi une leçon d'espérance de chaque jour. C'est dans la première épître de Pierre que nous trouvons encore des éléments susceptibles de nous mettre en joie, comme celle de l'eunuque éthiopien. Si vous avez vos Bibles, prenez la première épître de Pierre. On va prendre quelques versets, parce qu'on pourrait la parcourir entièrement, mais c'est pas l'objet ce matin. Mais première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Chers frères et sœurs, c'est ça l'objet de notre culte. C'est ça le cœur de notre rassemblement. Ce n'est pas juste être là pour, oui, chanter des cantiques que nous aimons, pour prier Dieu, oui, pour faire monter à Dieu nos prières. Mais si nous ne venons pas dans cet objectif identitaire que nous sommes en Christ et que c'est pour cela que nous sommes ensemble, nous passons à côté de l'essentiel. Verset 17, toujours dans le même premier chapitre. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge, chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Par quoi sommes-nous préoccupés dans la semaine ? Il y a notre travail, il y a la famille, il y a des responsabilités différentes ici et là. Oui, mais nous comporter conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Au chapitre 2 de cette première épître de Pierre, il est encore fait mention d'une identité essentielle qui différencie les croyants de ceux qui trébuchent sur le rocher qu'est Jésus. Au verset 1er, nous lisons « Ayant donc rejeté toute malice, toute fraude et la dissimulation et l'envie et toute médisance, désirez avec ardeur comme des enfants nouveau-nés le lait pur qui se trouve dans la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » On s'arrête là. Est-ce que c'est notre préoccupation dans notre semaine de croître pour le salut ? On dit « Ah, je croyais que le salut m'était donné. » Oui, le salut nous est donné. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais il faut croître dans cette connaissance verticale, dans la connaissance de Christ, pour nous rapprocher du Père, parce que Jésus-Christ nous montre le Père. Et puis il y a ce verset 3 qui est un peu piquant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, l'eunuque éthiopien n'avait plus aucun doute, il est reparti joyeux. Mais ici, l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si c'est votre situation, si c'est votre état par rapport à Jésus-Christ. Et puis, nous lisons plus loin, Christ, pierre de l'angle, la maison spirituelle, le peuple de Dieu, verset 4, vous approchant de lui, pierre vivante, réprouvée, il est vrai par les hommes, mais devant Dieu, choisie et précieuse, vous aussi comme des pierres vivantes, soyez édifiés en maison spirituelle pour former une sacrificature sainte. Il y a sans doute d'autres traductions, n'est-ce pas ? Pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. À vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent, n'obéissant pas à la parole, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelle richesse et quel bienfait nous avons en Christ, non seulement pour notre salut individuel, mais aussi pour l'Église qui est l'épouse du Christ. Et au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles. » Je pense qu'avec tout ce que nous entendons et tout ce que nous avons déjà appris, non seulement dans le monde, mais aussi dans les églises, que nous avons de quoi nous occuper dans notre semaine, de nous occuper de ce que le Seigneur nous dit et de nous occuper de notre marche. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une bonne conduite parmi les païens, c'est donc aussi une identité qui est reconnaissable. Pensez que l'apôtre Pierre lui-même, lorsqu'il a renié Jésus, on l'a reconnu par la manière dont il se comportait. Toi aussi, tu fais partie de cela. Et on l'a reconnu par ses propos, par la manière dont il parlait. On a vu ça à Pâques. Et finalement, Pierre a commencé à jurer. Il a voulu prendre une identité qui n'était pas la sienne. Il a voulu montrer qu'il... Non, non, je ne suis pas de cela, ça chauffe ici. Ce que nous sommes, mes amis, doit être conforme à ce que nous sommes en Christ, une bonne conduite parmi les païens, afin que tandis qu'ils vous calomnient comme des gens qui font le mal, en vous observant à cause de vos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour de la visitation. À cause de vos bonnes œuvres, c'est vrai qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur ceux qui achoppe sur la personne de Christ. C'est aussi l'approche de l'apôtre Paul de faire ressortir la différence d'approche et de comportement des chrétiens dans la société dans laquelle ils vivaient, et certainement dans la société dans laquelle nous vivons, nous, aujourd'hui, s'en étant dissociés par leur foi au Christ ressuscité. Ils avaient perdu des amis, ils avaient perdu des repères, mais ils se créaient une nouvelle communauté en Christ. L'Église, c'était nouveau pour eux, c'était le début. Voilà un comportement digne de notre identité en Christ que nous pouvons vivre jour après jour dans nos circonstances de vie. Mais ce n'est pas tout. Dans cette même épître, au chapitre 3 de la même première épître de Pierre, nous lisons à partir du verset 8 un appel pour l'Église dans son ensemble. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, plein de compassion et d'amour fraternel, miséricordieux, humble, ne rendant point le mal pour le mal, ni injure pour injure, mais au contraire bénissant, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Encore un aspect extrêmement positif, d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir de beaux jours, de bons jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer aucune parole fausse, mais qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors ce verset 12, je le trouve excellent. Beaucoup de choses excellentes, mais ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et parfois, on peut se demander, mais où sont leurs prières? Est-ce qu'on ne fait que lire ce verset sans vraiment mettre de la chair sur ses prières? N'avons-nous rien à dire à Dieu? Sommes-nous muets comme des carpes devant Dieu? Alors qu'est-ce qu'il y a au fond de nous-mêmes? Est-ce que c'est notre comportement qui pose problème? Est-ce que ce sont nos attaches? La qualité de notre identité à Christ? Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Le Dieu de la création nous écoute. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Exhortation solennelle s'il en est, mais je crois tellement facilement balayée d'un revers de la main, au verset 8 et 9, mais à ceux-là qui écoutent avec respect et considèrent cet appel, Pierre écrit, afin que vous héritiez la bénédiction. Alors courage aux fidèles, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes, parce que ses oreilles sont attentives à leurs prières, voilà qui est écouté. Et puis vient l'opposition du Seigneur contre ceux qui agissent mal. C'est réconfortant, mais pas toujours confortable, n'est-ce pas? Et nous reprenons au verset 13, les choses pas confortables. Et qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien? Et puis vient un propos qui s'oriente plus vers notre identité de croyant face aux non-croyants, notre identité dans le monde. Même verset 14, mais si même vous souffriez pour la justice, vous seriez bien heureux. Ne les craignez pas et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur Christ dans vos cœurs, étant toujours prêts à répondre pour votre défense, mais avec douceur et modestie à tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Ce sont les premiers temps de l'Église. L'Église, c'est une chose nouvelle, mais ce n'est toujours pas plus facile aujourd'hui de mettre en pratique cette constance de l'attachement au Seigneur dans les situations difficiles. Ayant une bonne conscience, au verset 16, afin qu'en cela même, où vous êtes calomniés, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confus. Et en effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et puis vient la raison, car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, un juste pour des injustes, afin qu'il vous amenât à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été vivifié quant à l'esprit. C'est encore de l'identité dont il est question dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, et c'est un angle d'approche particulier en opposant la société dans laquelle ils vivent et leur foi. 1 Thessaloniciens 5, 3, juste verset. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Et les versets 4 à 8, la différence est nette entre l'Église et le monde qui l'entoure. Face au comportement déréglé dans la société, face à la mentalité tout autre, Paul dit aux croyants, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. » Verset 18. Corinthiens 6 est à cet égard emblématique quand à cet antagonisme du monde et de l'Église. Verset 2, « Vous ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Il dit, « Oh, je vais devenir un juge. » Mais oui, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? » Et puis suit une liste de dévoiements, tels que l'immoralité sexuelle, regardons autour de nous, n'est-ce pas, l'idolâtrie, l'adultère, les travestis, les homosexuels, les voleurs, le désir de posséder toujours plus, l'ivrognerie, la calomnie, l'exploitation des autres, qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et si Paul en Éphésiens rappelle que certains croyants étaient de leur nombre, il persiste en insistant bien que la distinction est claire pour garder une feuille de route distincte pour l'Église du Seigneur. Ne négligeons toutefois pas sa sollicitude aussi envers tous et la bonté envers ceux du dehors. Restons équilibrés. Et Paul de mettre aussi en avant l'imitation. En Philippiens 3, 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Rien de plus concret dans cette identification horizontale et pratique. Le croyant, écrira Paul dans ce premier temps de l'Église, en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, » et nous terminerons là-dessus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ, dans son existence, est ressuscité, nous l'avons célébré à Pâques, incarne la nouvelle création. Et nous devons comprendre notre vie présente à la lumière de ce qui est vrai en Christ. Ne dit-il pas encore aux Colossiens, et on reviendra à la verticalité, chapitre 3, verset 1er, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et je me tiens ici près du baptistère qui est l'image de cette mort et de la résurrection en Christ quand le croyant témoigne de sa conversion. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et souvenons-nous de Moïse, qui croyait à l'invisible. Dieu est esprit. Et l'apôtre Paul dit à tant de reprises que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est pas en matérialité d'aujourd'hui que nous sommes sauvés. Nous avons la paix dans le cœur si nous lui appartenons, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est un avenir glorieux que nous ne pouvons pas démontrer, que nous ne pouvons pas encore vraiment toucher, mais que nous pouvons connaître par le témoignage de l'Esprit de Dieu en nous. Amen.